Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Onde Curieuse. Pour ce dernier rendez-vous de la semaine, on retrouve Olivier Horry et ses choix littéraires. Après nous avoir embarqué au guidon de La Mobilette, roman de Frédéric Ploussard, et avant un détour philosophique auprès de Jean-Marc Guitti pour son essai Passage et présence de Simone Veil, à écouter bientôt dans l'Onde Curieuse, Olivier Horry nous propose aujourd'hui une rencontre avec Louise Pommeret pour son premier roman « Dessous la dure écorce ». Un livre de combat, combat écologique, combat contre la maladie, combat sociaux, doublé d'un roman très sensoriel. Olivier nous en parle en compagnie de l'autrice. Mais avant cela, on retrouve l'actualité en Sud-Ardèche et le choix musical. Laurent, quelles sont les infos chaudes et brûlantes de cette fin de semaine ?
Oh ben on va parler de journée de la laïcité, notamment demain à Chomérac-Sophie. L'État, la Caisse d'allocation familiale, la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche et encore d'autres partenaires institutionnels vous donnent rendez-vous demain dès 9h, Chomérac, salle Le Triolet, pour des débats, des conférences et en après-midi, une table ronde. Vous pourrez aussi découvrir une exposition pédagogique. Le débat, lui, qui a lieu le matin, est ouvert à tous. Il nous invite à un moment de partage de notre compréhension de la laïcité, un terme trop souvent galvaudé, incompris ou en tout cas partiellement compris. D'ailleurs, durant cette même matinée, l'historien Stéphane Nivet va présenter, à l'occasion d'une conférence, un thème, la laïcité, les jeunes et le monde rural, aujourd'hui, en 2022. L'après-midi donc sera plus institutionnel. Elle abordera donc après le partage matinal de compréhension de la laïcité, la question du comment le principe de laïcité est décliné dans les institutions et dans les actions face au public. Une table ronde qui aura lieu en après-midi, 13h30, 15h30. Le deuxième forum local de l'alimentation, lui, va se tenir demain à Jaugeac à la Maison du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche. Un rendez-vous qui a pour objectif de reconnecter agriculture nourricière et alimentation de qualité. Que vous soyez citoyen, acteur économique, acteur associatif, institutionnel, vous êtes invité à dialoguer et à croiser vos regards à l'occasion d'ateliers thématiques, de tables rondes et d'une plénière. 6 ateliers thématiques sont d'ailleurs programmés en après-midi. Il y aura celui de la transition et du changement climatique. Il y aura celui de l'installation agricole et du renforcement des filières locales ou encore le thème justice agri-alimentaire. Interventions artistiques et buffets dégustation sont également au programme en fin de journée. Ce deuxième forum de l'alimentation, c'est demain dès 13h30. C'est à la Maison du Parc à Jaugeac et vous trouverez le programme complet sur le site justement du Parc des Monts d'Ardèche.
Pour les infos culturelles, ça commence ce soir avec au Théâtre de Privas un rendez-vous pour un récit musical et théâtral avec le spectacle Comprendre de la compagnie Madame Lune. L'histoire, face à une douleur qui ne la quitte plus, une femme est à la recherche d'un remède à même de la soulager. Sur scène, 3 interprètes racontent et chantent son histoire à travers celle de son corps. Donc c'est ce soir à 20h, ça vous coûtera de 10 à 20 euros et sans doute beaucoup de plaisir. Demain, n'oubliez pas de venir soutenir votre radio préférée à l'occasion du concert de Miette en première partie et de Hit Hit Anita, groupe belge de rock bien noise au centre Le Bourneau à Aubenas. Donc fréquent 7 y tient la buvette, c'est l'occasion de nous rencontrer autour d'un verre. Je rappelle, ça se passe ce soir à partir de 20h45 au Bourneau.
Demain soir.
Mais j'ai hâte. Donc c'est demain soir, demain vendredi, à partir de 20h45 au Bourneau à Aubenas. Les places sont de 8 à 10 euros. Autre lieu, autre ambiance. Samedi 10 décembre, faites-vous un opéra. Et oui, Laurent, un opéra en Ardèche, c'est possible. Grâce aux retransmissions qui ont lieu en direct depuis le Metropolitan Opera de New York. Et samedi, vous êtes gâtés puisque vous pourrez voir la première mondiale de The Hours. Vous savez, l'adaptation du roman de Michael Cunningham et qui a déjà fait l'objet d'un magnifique film oscarisé avec Nicole Kidman, Meryl Streep et Julianne Moore. L'histoire, c'est une plongée de 24 heures dans la vie de 3 femmes intimement liées à des années d'intervalle. Et la première n'est autre que Virginia Woolf. Donc cette première mondiale qui est une création donc pour l'opéra, est à découvrir dans deux cinémas d'Ardèche, samedi à 18h55, les Quinconces à Vals-les-Bains et le Foyer à Rosières.
Eh bien, la chorale Scola Cantarelle, ça c'est un chœur d'enfants et d'adultes qui nous vient de la Blachère, va donner son concert de Noël dimanche. Ce sera à l'église de la Bégude à partir de 15h30. Le concert, vous pourrez également le retrouver à un autre moment, mercredi prochain, ce sera le 14 décembre, 18h30. Et là, ils vont, jouer chez eux, puisque ce sera à la basilique Notre-Dame de Bon Secours de la Blachère. On reste dans le thème de la féerie des fêtes de fin d'année avec Priva. Ce dimanche 11 décembre, une foire commerciale. Elle aura lieu de 9h à 17h en centre-ville. On y attend plus de 60 exposants, plutôt locaux ou du moins régionaux. Maroquinerie, chaussures, vêtements, artisanat et Père Noël aussi, bien sûr, présent à l'occasion de ce dimanche où les commerces du centre-ville resteront exceptionnellement ouvert. Enfin, à Vals-les-Bains, Salvolane, quatre artistes exposent jusqu'au 18 décembre. C'est le Noël des artistes. Ils regroupent à la fois Ghislaine Morales pour ses céramiques et puis Pascal Julie, Catherine Pujat et Vassiliane Berjoudi, trois peintres aux trois techniques de peinture différentes. Vous pouvez découvrir tout cela du lundi au vendredi, 8h30, 12h, 13h30, 17h30, Salvolane à Vals-les-Bains, mais aussi les samedis et dimanches uniquement en après-midi, 14h, 18h, mais en présence des artistes.
Toujours à Vals, mais cette fois au cinéma des Quinconces, on rappelle que cet après-midi à 15h, vous pourrez embarquer pour l'Italie grâce à la séance « Connaissance du monde ». Au programme découverte de la Ligurie, de la Campanie et de la Toscane et rencontre avec le réalisateur Mario Introia. Demain à 18h30 à la médiathèque de Priva, lecture théâtralisée de la création de Thomas Ostermann, comédien et metteur en scène, autour de l'ouvrage Les Mémoires de Marie-Noël Bas, sage-femme de l'Ardèche, de Marianne Vivier. Donc Thomas Ostermann est en résidence en ce moment même à la médiathèque de Priva, donc, pour créer un spectacle dont la sortie est prévue au printemps 2024. Et demain à 18h30, c'est à l'avant-avant-première, en quelque sorte, que vous pourrez assister à l'étape de création. Donc ça se passe à la médiathèque de Priva et c'est gratuit. Pour terminer, dernière petite info, pour terminer, ce week-end, samedi et dimanche, à Aubenas, la Maison de l'Image propose aux 16-25 ans un atelier slam et vidéo avec Julien Delmer. L'idée, eh bien, c'est de réaliser un portrait citoyen sur le poète et écrivain, Julien Delmer himself. Rendez-vous pour deux jours de création avec atelier d'écriture slam et réalisation vidéo. Si vous êtes intéressé, vous faites signe à Jérôme de la Maison de l'Image par mail à jérôme@maisondelimage.eu.
Et d'où ?
Et au niveau du choix musical, Laurent, qu'est-ce que tu nous as concocté ?
Ben voilà, avant de retrouver Olivier et son invité, ben je vous propose aujourd'hui de découvrir un nouveau single de L.A. Salami. Alors, ça s'appelle Peace in Fine. Alors, pourquoi L.A. Salami ? Tout simplement, c'est pour Lukman Adekunle. Adekun, voilà, ça se dit comme ça, je pense. Salami, voilà, c'était plus simple de dire El Salami pour lui. Mmh. En fait, c'est un jeune artiste qui est né à Peckham, qui est un quartier branché de la région londonienne, quartier surtout très cosmopolite. Et il est né d'ailleurs d'une mère nigériane et d'un père absent. Voilà, donc il a passé les premières années de son enfance dans une famille d'accueil et ce sentiment d'être un étranger, eh bien, nous dit-on, imprègne depuis le début sa production créative, qu'il s'agisse d'ailleurs de musique ou des imprimés qu'il le produit en parallèle parce que c'est également un artiste, alors pas artiste peintre, on dira plutôt sérigraphe, voilà, où il travaille sur des tissus, des choses comme ça, il fait beaucoup d'impressions. Peace in Fine, c'est le nouveau single de son quatrième album déjà, qui est sorti fin septembre. L'album s'appelle Autoline et Autoline, bah c'est un disque Covid, encore un. Il a été créé en effet pendant cette drôle de période que fut le confinement. L.A. Salami, Peace in Fine dans l'onde curieuse. As much
much as I respect the burden, I feel the doom. There's way too much that seems uncertain, except the tomb. The sight of sunlight makes me want to fly. But it's the thoughts of no more rain that keeps me dry. For I am just a man, an atom in the plant, some writing on the wall. Stars don't understand. I am just a line in the book written by time, a naked mortal mass of thought and dust combined. Who's deciding the peace is fine? The consequence of being no one is sense of self, and the circumstances you'll get nowhere without the help. It's a thing a man just can't deny, of which you shouldn't waste your time to try and define. 'Cause you are just a speck, a card inside a deck, the light outside the lamp, the rain inside the wet. You are just a crow, crippled in the snow, the rat that lays decayed, an arrow in the bow that can decide.
Vous écoutez Fréquence 7, vous écoutez Longue Curieuse, et c'était Peace in Fine de L.A. Salami. Maintenant, on retrouve Olivier Horry et son invité, Louise Pommeret.
Louise Pommeret, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir parce que j'ai lu un roman que vous nous avez offert il y a quelque temps déjà. C'est Dessous la dure écorce. Rien que le titre déjà, c'est poétique. Dessous la dure écorce. Ça parle directement à la sensibilité, c'est-à-dire au sens, et puis aussi au sentiment. Voilà. Et ce livre-là, c'est ce qu'il m'a fait. Il m'a parlé directement au sens et à la sensibilité. Vraiment. Alors, pour les auditeurs, Dessous la dure écorce de Louise Pommeré, c'est l'histoire d'une femme, Camille. Et le livre nous propose de la regarder elle-même dans sa vie intime, pas de ses proches. Mais l'histoire, le roman nous permet aussi de la voir dans le collectif, dans la collectivité, sur une ZAD, une zone à défendre contre la construction d'une route, hein, du côté du Puy, en Haute-Loire. Donc on va suivre Camille. Camille qui est une mère célibataire, qui a un fils, Léo, qui va rencontrer un homme qui est agriculteur, éleveur, hein, Rémi, qui a lui-même une fille. Et le livre s'ouvre malheureusement sur une annonce terrible, puisque Camille est à l'hôpital, elle a un entretien avec un médecin qui lui annonce que Gilbert, son père, le père de Camille, Gilbert, est atteint d'un cancer déjà bien avancé. Ça fait longtemps qu'il a mal, mais apparemment il n'avait pas consulté, c'était pas trop... Voilà, peut-être qu'il voulait pas savoir, enfin je sais pas, peu importe. Toujours est-il que on est effectivement, le lecteur est cueilli dès le départ, au plan donc de la sensibilité, comme je le disais. Voilà, c'est de ce livre-là que j'aimerais parler, de la création littéraire également. Et j'ai l'habitude d'utiliser pour ça la forme de l'abécédaire, pour faire votre dictionnaire ou parler votre langue. À la lettre A, j'ai choisi « autre », au sens d'alter ego, les autres, les gens, quoi. Et pour que le futur lecteur ne se méprenne pas, il ne s'agit pas, ou le lecteur ne se méprenne pas, il ne s'agit pas de l'autre, le père biologique de Léo, le fils de Camille, qui est appelé l'autre parce qu'on veut même plus prononcer son prénom et son nom. Il ne s'agit pas de cet autre-là, il s'agit des autres. Et je trouve que votre roman manifeste votre capacité à faire attention aux autres, de manière ensuite à donner vie à vos personnages, justement. On sent bien qu'il y a une expérience des autres qui a été nécessaire. À quoi êtes-vous particulièrement sensible chez les autres quand vous les rencontrez ?
Oui, alors déjà, merci beaucoup, Olivier, pour cette invitation. Et effectivement, les autres ont une place très importante dans le roman, parce que c'est un roman qui essaie de dire à sa manière les liens qui peuvent unir des êtres humains dans un tout petit pays rural. Et donc, les liens de solidarité qui sont nécessaires au déploiement de cette vie. Alors, les autres, vivre avec les autres et être sollicité, interpellé par l'existence de l'autre, je pense que c'est tout d'abord par la souffrance qu'autrui peut éprouver. Dans mon cas, en fait, Camille, donc c'est une jeune femme qui est engagée, comme vous l'avez dit, dans deux luttes. Elle accompagne déjà son père dans la maladie, donc elle est effectivement extrêmement sensible à sa souffrance, à la dureté de cette expérience. C'est une accompagnante de l'autre, et puis elle est parallèlement aussi engagée dans un combat collectif. Donc c'est un collectif constitué de paysans, d'habitants, de militants qui s'opposent à la construction d'une route qui va dévaster un massif forestier. Donc voilà, Camille s'engage effectivement avec les autres pour la défense du vivant, pour la défense de ce massif forestier, pour la défense d'un lieu de vie qui est menacé par l'irruption du pouvoir qui décrète que tout à coup il faut construire une route là où il y a des fermes, là où il y a des gens qui vivent. Et puis, c'est aussi la défense du vivant non humain, qui n'a pas voix au chapitre, qui n'a pas son mot à dire, mais qui constitue aussi l'autre à défendre. Donc, en fait, Camille, elle est, comme moi, je pense, d'abord sensible à la souffrance d'autrui. Et donc, c'est une personne qui éprouve de la compassion pour la souffrance.
Ouais. Et d'ailleurs, il y a une souffrance à laquelle elle doit être sensible, mais qui est un peu caché, c'est la souffrance qu'on peut supposer, la souffrance de Léo, de l'enfant, de l'infance, celui qui peut pas parler, justement. Et on sent que Léo, il doit se poser des questions sur l'absence du père, il doit se poser des questions, enfin, je sais pas. Et on arrive à le sentir même sans les mots. Enfin, est-ce qu'il y a ça, d'abord? Est-ce que vous avez...
Oui, c'est vrai qu'il y a une attention peut-être particulière portée à la souffrance de ceux qui n'ont pas les mots pour dire. Donc Camille, c'est aussi une femme qui travaille dans un CADA, dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, donc qui accompagne et qui aide des personnes qui ne maîtrisent pas les codes et qui déambulent un peu dans les dédales de l'administration, d'un pays dont ils ne possèdent pas forcément la langue. Et donc, elle aide toujours les autres. En effet, elle aide aussi son fils à grandir, son fils qui a une histoire un petit peu difficile. On peut avoir l'impression qu'elle est particulièrement sensible, voilà, aux personnes qui ne peuvent pas forcément exprimer leurs difficultés et leurs souffrances.
Ouais, tout à fait. Ces migrants d'ailleurs qui le premier mot de français qu'ils risquent d'apprendre, c'est OQTF, hein, obligation de quitter le territoire français. C'est assez désagréable comme vocable d'ailleurs, OQTF. On a eu à Surobona l'occasion de se mobiliser pour en éviter quelques-unes, voilà. Mmh. Et effectivement, alors B, alors on va rester dans le soin, dans l'attention, puisque à la B, j'ai choisi bergerie. Un peu bizarre, mais c'est parce que Rémi est éleveur, le compagnon de Camille. Il est éleveur et il a effectivement une bergerie. Et là, j'avais envie de vous interroger sur votre sensibilité à vous, à ce monde du vivant, à ces vivants, qui sont les moutons, évidemment des objets économiques, hein. Mais pas que. Vous avez développé une sensibilité particulière à la condition animale, etc.
C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, je me suis installée en Haute-Loire. Et donc, pour moi qui avais toujours vécu en ville et surtout dans des grandes villes, l'écriture de ce roman, ça a aussi été un moyen de m'enraciner dans ce nouveau pays. Donc, de m'enraciner par l'écriture. Et parce qu'en fait, finalement, écrire sur un pays, écrire sur des paysages, écrire sur un milieu, c'est une façon d'observer ce milieu et puis de trouver les mots, de poser les mots sur cette vie-là. Oui, Rémi, c'est un personnage donc qui est moitié maraîcher, moitié berger, moitié éleveur. Et donc Camille va tomber amoureuse. Donc c'est une des figures de proue de ce combat contre cette route qui va investir le massif du Mégal. Et donc il a un parcours assez intéressant parce que c'est quelqu'un qui a décidé un beau jour de déserter la vie qu'il avait. Il avait une vie pourtant assez confortable, un chemin tout tracé devant lui. Il travaillait à Lyon dans une entreprise de design industriel. Et puis, du jour au lendemain, il décide de tout quitter pour s'enraciner quelque part. Et en fait, c'est-à-dire qu'il décide de s'émanciper tout en choisissant la soumission, parce qu'en fait, il va décider de devenir éleveur et donc de se soumettre à des rythmes qui sont ceux du vivant, qui sont très exigeants, parce que c'est le soin apporté effectivement à des animaux chaque jour et on ne peut pas échapper à cette...
Ça commence tôt le matin, ça finit tard le soir.
Voilà, donc il dit qu'en fait, paradoxalement, il a choisi de se soumettre volontairement à ce rythme-là pour s'affranchir par contre d'un asservissement réel qui était celui justement de la route toute tracée du travail salarié, des vacances que l'on pose sur un calendrier. Et donc il y a ce paradoxe chez lui de se libérer tout en se soumettant à autre chose.
Oui, c'est vrai. Et je trouvais... C'est vrai qu'il est aussi maraîcher, donc aussi cultivateur, aussi penché sur la glèbe, sur la terre. Hein. Mais je trouve, c'est très subjectif, je trouve qu'il est quand même beaucoup une figure d'Abel, c'est-à-dire de celui qui, effectivement, accepte de se soumettre à la vie et aux lois de la vie, mais pour gagner une forme de liberté et être agréable à Dieu, d'une certaine manière, oui. Mais qui, évidemment, prend un risque énorme. Il y a beaucoup de Caïn hein, qui tournent par là, bah, ceux qui veulent bâtir la route, etc. Et on sent qu'effectivement, Rémi, il est capable, entre guillemets, comme on le dit pour le Christ, d'aller jusqu'au sacrifice suprême pour sa liberté, non ?
Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui lui est absolument insupportable dans ce projet de route, c'est que c'est un projet qui risque de le déraciner complètement de cet endroit où il a choisi de poser ses valises et de bâtir une vie en toute liberté. Et toujours dans cette dialectique entre la liberté et la soumission, mais une soumission qu'il a lui-même choisie, celle de se soumettre au rythme de la nature et de ses animaux. Voilà, il est embarqué dans une quête de sens, il est embarqué dans une lutte qui est un peu celle... Alors c'est vrai que ça peut faire penser en effet à Abel et Caïn, à David et Goliath aussi, ouais. Parce qu'il est une sorte de figure de David qui se heurte à un pouvoir qui est bien plus grand que lui, mais il va quand même puiser aussi sa force toujours dans le collectif. Il n'est pas seul, il est une figure de proue, il est une sorte de primus inter pares dans ce collectif qu'il investit aussi de sa puissance. Et justement, de toute façon, ce collectif ne peut compter que sur les liens de solidarité, sur les liens d'amitié qui naissent entre les différents membres de ce petit groupe pour se battre contre le pouvoir qui, lui, est gigantesque et évidemment bénéficie, enfin, se sert d'armes qui sont complètement inégales par rapport à celles du collectif.
Ce qui me frappe dans le livre et puis dans le réel, parce que le roman est ici, comme disait Stendhal, effectivement un miroir promené au bord du chemin. Ce qui me frappe derrière la puissance et l'importance, l'intensité de la puissance du pouvoir, etc., c'est son absurdité. C'est-à-dire, c'est complètement absurde. Cette route, elle permet de gagner 10 minutes quand on fait circuler les marchandises avec un camion, et ça coûte des centaines de millions. Et c'est ce côté absurde, de même qu'est absurde le meurtre de Caïn. On comprend pas pourquoi il fait ça. Et vous êtes sensible à cette absurdité du politique parfois du...
Oui, c'est un projet qui est un projet complètement hors sol, c'est-à-dire c'est un projet de route qui est décidé dans les bureaux d'une administration lyonnaise et qui va déposséder un territoire d'une dizaine de kilomètres de toute la vie qui s'y est tramée pendant des années. En effet, pour des raisons, alors les raisons invoquées, bien sûr, ce sont celles du gain de temps, mais en fait qui est extrêmement dérisoire. Des raisons sécuritaires aussi, permettre à des
enfants ne se fassent pas renverser par les voitures, etc.
Voilà, alors qu'en fait, si la sécurité était vraiment au cœur de ce type de projet, ben, on développerait un tas d'alternatives qui permettraient aux gens effectivement de vivre en toute sécurité. Mais je pense qu'en fait, cette route, c'est surtout la métaphore du pouvoir, c'est-à-dire la dépossession des habitants. La dépossession de leur territoire, le déracinement. Et donc, c'est la route pour la route, le pouvoir pour le pouvoir, parce qu'on décide de s'emparer d'un territoire et de relier un point A à un point B en tout mépris de la vie qui existe sur,
sur cet d'ailleurs, espace. Vous, effectivement, l'enracinement... Vous citez en exergue Simone Veil, son ouvrage, donc une partie de son ouvrage, L'Enracinement. Et en vous entendant parler du pouvoir, de sa logique interne, ça me faisait penser justement à ce que dit Simone Veil quand elle décrit le contraire de l'enracinement, à savoir justement un pouvoir politique qui finit par ne plus travailler qu'à son propre entretien, d'une certaine manière. Donc c'est complètement absurde, c'est le pouvoir qui travaille uniquement... À augmenter son pouvoir, et Simone Veil se sert de cette notion, de cette idée, pour décrire un processus d'entrée en guerre. Et malheureusement, l'actualité lui donne raison. C'est-à-dire, il y a à un moment donné, le pouvoir s'exerce juste pour pouvoir s'exercer, et s'exercer si possible encore un peu plus. C'est terrifiant.
Oui, mais c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que j'ai cité en exergue Simone Veil avec ce très beau livre qu'elle a écrit, L'Enracinement, que j'ai découvert quand je suis arrivée au Puy-en-Velay, parce que c'est vrai que Simone Veil a laissé des traces au Puy. Elle y a vécu dans les années 30, pendant une année seulement, mais elle y a laissé beaucoup de traces, à commencer par le fait qu'il y a un lycée, le lycée Simone Veil, qui porte son nom. Mais justement, les personnages principaux de ce roman, Camille, Rémi, justement aussi le berger, ce sont des personnages qui ont en commun un très fort besoin d'enracinement, alors que Simone Veil qualifie comme premier besoin de l'âme. Ouais. Enracinement, c'est-à-dire bâtir avec les autres, dont vous parliez avant, avec les autres, en puisant dans le passé du territoire, mais aussi avec comme boussole une même intuition d'avenir. Et là, c'est l'intuition quand même d'une catastrophe qui est en train de se dessiner, ouais, pour le territoire, qui anime ces personnages et qui leur donne envie, voilà, de le défendre.
Mmh. Ben, parlons justement d'un territoire. Alors, on va pas se déraciner de l'Ardèche méridionale ou de la Haute-Loire, mais on va quand même aller faire un petit tour dans le sud. Assez, j'ai choisi Camargue. Alors, dans le livre, effectivement, la Camargue, c'est une partie du sud. C'est là que se rendent Camille, Rémi et leurs enfants pour souffler justement un peu, hein, pour sortir de la ZAD, pour sortir de la ferme, etc. Et la Camargue, pour moi, et dans le livre, je crois, et pour vous, me semble-t-il, c'est un peu la question, c'est quand même un très haut lieu symbolique. C'est un lieu dans lequel se déploient des énergies très très fortes, un petit peu mystérieuse, etc. Vous confirmez, la Camargue vous fait cet effet-là, d'un lieu traversé par des énergies et des symboles très forts?
Oui, alors la Camargue, en fait, c'est un lieu que j'ai d'abord rencontré dans les livres. C'est-à-dire qu'avant d'aller en Camargue, j'avais lu sur la Camargue et ça m'avait donné envie d'y aller. Je l'avais rencontré, par exemple, dans Malicroix de Henri Bosco, ou bien dans un roman de Jean Prohal aussi, ou chez Darbeau, qui a écrit en occitan, et je suis très sensible aux langues régionales.
C'est l'italien, je crois.
Oui, l'italien et l'espagnol. Et donc, en m'enracinant en Haute-Loire, j'avais aussi envie de m'enraciner, alors bien que très superficiellement, parce que je ne parle pas l'occitan, mais m'enraciner aussi un peu dans ce substrat de la langue autochtone, en fait, qui est l'occitan. Mais donc j'avais découvert la Camargue d'abord comme un lieu littéraire, et puis c'est vrai qu'en m'installant en Haute-Loire, je me suis rendu compte que bien la Haute-Loire, on dit que c'est le midi de l'Auvergne, et on est très vite vers le sud. Donc en effet, les personnages du roman, Camille et Rémi, font deux courts voyages vers des régions du sud, donc en Ardèche, et puis aussi en Camargue. Et c'est vrai que la Camargue, je l'ai découverte il y a finalement assez peu de temps. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment primitif dans ce pays. Et en effet, d'assez mystérieux, et puis de sauvage. Et donc c'est vrai que l'expérience que Camille a de la Camargue, c'est d'abord l'expérience d'un pays sauvage. Et elle arrive à un moment de sa vie où elle ressent un très fort besoin de réensauvager sa vie. Et c'est-à-dire que dans cette histoire de route, il y a aussi quelque chose qui va se jouer. C'est pour elle l'idée qu'il faut laisser quelque chose au sauvage, qu'il ne faut pas tout lui prendre, et qu'il y a des territoires qui doivent rester sauvages, c'est-à-dire autonomes, émancipés de l'emprise humaine. Et donc, à un moment, il y a une scène qui se passe donc pendant la nuit en Camargue, et elle ressent en elle ce pays primitif, ce besoin de réensauvagement, et elle décide de nouer un pacte avec le sauvage. Et donc de le défendre, de ne pas tout lui prendre et de lui laisser ses terres.
Ouais, il y a quelque chose qui du coup approche la magie primitive comme ça, enfin quelque chose qui ferait penser au Condomblé à Bahia au Brésil, quelque chose comme ça, une espèce. En plus, il y a la mer qui est pas loin, les taureaux, les chevaux, il y a une animalité, etc. Et ça donnerait presque une vocation de chaman, effectivement, quelque part.
Oui, c'est vrai. l'impression aussi peut-être qu'il faut réinvestir le vivant d'une forme de spiritualité, le réinvestir d'une âme. Et c'est vrai qu'en Camargue, on retrouve ça. Il y a déjà une biodiversité vraiment incroyable, hein, avec énormément d'espèces d'oiseaux, de végétation. Il y a cette présence aussi de la mer qui est toujours menaçante, hein, parce qu'on voit bien d'ailleurs sur la côte comme les hommes ont tenté de construire des digues pour empêcher la percée des eaux. Donc, en effet, la Camargue, c'est un pays où il faut composer avec, avec la nature de ouais, façon ouais. très particulière.
Ouais. Bon, je crois qu'une fois de plus, c'est mon malheur, c'est mon destin, ça. En radio, ce qui me manquera toujours, c'est du temps. Et oui, les horloges tournent. Enfin, nous n'avons pas des horloges qui tournent, nous avons des horloges qui s'affichent. C'est pas moins prétentieux, hein, d'une certaine manière. Mais nous n'avons plus beaucoup le temps. Alors, Louise Pommeré, il me reste à vous remercier. Ça a été vraiment une joie de vous recevoir ici.
Merci à vous.
Parce que ça a fait une prolongation pour le livre. Donc, Louise Pommeré, Dessous la dure écorce, c'est un roman publié aux éditions de l'Aube. Et c'est un roman qui ne laisse pas indifférent. Merci, au revoir.
Au revoir.
Merci Olivier, et merci Louise Pommeré. Merci Laurent.
Mais je t'en prie.
Si vous ne nous avez pas écoutés en intégralité, vous pouvez nous retrouver en rediffusion à 17h ce soir ou en replay à partir de ce soir sur fréquence7.net. Demain, vous avez rendez-vous avec l'équipe de Cinémascope à 12h10 et nous, pour l'onde curieuse, on se retrouve lundi à partir de midi.
Inch'Allah, comme disait l'autre. À lundi.
À lundi, à demain pour moi. À demain.